Amis Potono, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro dont on refait le mastre, l'émission radio de Poteau Carré. Alors, une émission riche, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'il se passe des choses au club, avec bien évidemment le départ d'Olivier Dalloglio. Alors, avec moi ce soir pour débriefer ce point et d'autres, Vérivel, l'homme de la technique sur Poteau Carré. Salut Vérivel.
Salut Osvaldo et puis salut à tous et à toutes.
Président, d'abord et avant tout amoureux des Verts, amoureux du foot anglais aussi, malheureusement, supporter du 15 de la Rose, personne n'est parfait. Salut dissident.
Salut Osvaldo, bonsoir à tous, ravi de vous retrouver.
Et puis, évidemment, l'inamovible Parazard, la plus belle plume de Poteau Carré. Salut Parazard.
Salut à tous, salut Osvaldo, dissident Vérivel.
Alors, je
Salut
parlais de la
peuple.
plume de Parazard, peut-être l'occasion de rappeler à ceux qui nous écoutent que Parazard a commis un livre, La Passion selon Saint-Étienne. Quel beau titre! Donc faites-vous plaisir, les fêtes approchent. Si vous ne l'avez pas encore dans votre bibliothèque, La Passion selon Saint-Étienne, magnifique. Alors, ce qui est moins magnifique, c'est la situation peu reluisante du club actuellement. On va en parler, on va développer essentiellement trois points. Évidemment, on va parler du départ d'Olivier Dalloglio et ce qu'on en pense les uns et les autres. On va s'interroger aussi sur la stratégie de Kilmer. Je sais que c'est une interrogation partagée par beaucoup. Je l'ai intitulée « À quoi joue Kilmer ?» Oui, on n'est pas sûr de tout comprendre. Enfin, moi, je ne comprends pas tout. Et puis on va réfléchir dans un troisième temps aux hommes avec lesquels on va pouvoir repartir du bon pied, se maintenir d'abord et puis espérons-le viser plus haut. Quels sont les hommes sur lesquels on peut s'appuyer dans l'effectif actuel? Quel type d'entraîneur? Et puis quel type de recrue aussi, car c'est probablement indispensable. Alors, évidemment, l'actualité est toute chaude. Ça fait 2 jours que c'est arrivé, le départ d'Olivier Dalloglio. Par hasard, on va commencer avec toi. Est-ce que ce départ de Dalloglio, c'est le bon choix qui a été fait par la direction? Est-ce que c'était inéluctable selon toi?
Alors, inéluctable, je pense que oui. Le bon choix, je dirais plutôt non. Inéluctable, en fait, pour des raisons de cohérence entre la stratégie, la vision et le projet que portent Gazidis et ses sbires. Différence entre cette vision et le mode de management de Dalloglio et sa vision d'une construction d'équipe pour la Ligue 1. Les différences de point de vue, elles ont transpiré très vite. Au-delà du point de vue, des différences de point de vue, personne n'a mis vraiment de mouchoir sur ses convictions, puisque les recrutements ont plutôt été dans la lignée du projet de Gazidis et donc n'ont pas forcément respecté les souhaits de Dalloglio. Donc, c'est pour ça que moi je parle je dis que depuis le début, la tête de Dalloglio était sur le bio et que fatalement elle allait sauter. J'aurais même tendance à penser que ça sera le cas également pour une partie du fameux triumvirat historique, en particulier Tsoukas. Est-ce que c'était souhaitable? Je dirais plutôt non, parce que Dalloglio nous a montré en 6 mois qu'il était capable de bien manager une équipe, d'être performant, avec un groupe qui n'était pas extraordinaire. Donc, sachant que je trouve que la continuité est toujours plutôt une bonne idée. En matière de football. Donc, je ne pense pas que ce soit une bonne chose. D'autant que je n'ai pas de gros reproches à faire à Dalloglio sur sa gestion de l'effectif et de la tactique depuis en fait son arrivée. Voilà.
Alors, dissident, est-ce que tu fais preuve de la même mansuétude auprès d'Olivier Dalloglio? Alors, je crois qu'il est assez unanimement apprécié. Bon, il est sympathique, on est monté avec lui, etc. Mais est-ce que tu fais preuve de la même mansuétude sur ses choix de titulaire, ses choix tactiques, son coaching en cours de match, enfin, son management global? Est-ce que tu n'as pas non plus de reproches à faire à l'ex-
Mais Si, moi justement, j'ai des reproches à faire à Dall'Oglio et je trouve effectivement que son départ était inéluctable et je pense qu'il aurait pu, il aurait pu même arriver plus tôt dans la saison. Je pense quand même que quand on se retrouve dans la situation sportive dans laquelle on est, avec les raclées qu'on a prises, le non-match, la bouillie infâme qu'on a proposée contre Marseille, par exemple. Forcément, il y a des questions à poser à l'entraîneur, même si on a bien compris qu'effectivement, il n'avait pas eu la main libre sur le recrutement, même si là, il se retrouve avec des joueurs qui ne désiraient peut-être pas. J'ai quand même tendance à penser que, on aurait pu espérer mieux. Moi, je garde quand même en souvenir une certaine rigidité dans le choix des joueurs. D'un certain coaching un peu scolaire. Il y a quand même pas mal de choses dont on a déjà discuté et sur lesquelles on pourrait revenir. Je pense que son départ, il était évident pour plusieurs points. Le premier point, on vient d'en parler, c'est les résultats sportifs. On est 16e, on a la pire défense, on n'a pas l'impression d'avoir vraiment progressé sur les derniers mois. Le deuxième point, il est sur l'attitude du coach. Clairement, dès cet été, on a bien senti qu'il y avait un gouffre entre sa vision et celle de Kilmer. Et dans ces cas-là, bah, c'est toujours la vision du patron qui l'emporte à la fin. Ça, c'est assez logique. Et puis la troisième raison, c'est le timing. C'est assez évident que si on voulait se séparer, changer quelque chose, c'était le bon moment puisque l'entraîneur qui va arriver maintenant aura devant lui l'intégralité du mercato pour essayer de composer l'équipe comme il le souhaite. Et d'ailleurs, c'est assez rigolo, entre guillemets, de voir la symétrie entre l'arrivée de Dall'Oglio et le départ de Dall'Oglio, parce que quand il arrive, en fait, c'était quasiment il y a un an, jour pour jour, et lui-même a bénéficié finalement de ce timing il y a un an pour pouvoir composer un groupe qui allait lui permettre d'emmener les Verts en Ligue 1. Donc, moi, je ne suis pas surpris de son départ. Je le remercie vraiment du fond du cœur pour tout ce qu'il a fait sur les 6 premiers mois à Saint-Étienne. La fin m'a laissé justement un peu sur ma faim.
Oui, alors une question, moi je trouve qui est légitime de se poser, c'est est-ce qu'Olivier Dall'Oglio a fait progresser le groupe? Parce que je crois que c'est quand même quelque chose qu'on doit demander à un entraîneur d'être capable de faire progresser son groupe, je dirais, indépendamment du niveau de départ. Vérivelle, est-ce que tu as le sentiment que collectivement, les Verts ont progressé depuis le début de la saison?
Non, je pense qu'on ne peut pas vraiment dire ça vu les tout derniers matchs là qu'on a proposés, à part peut-être celui à Toulouse qui était un petit peu mieux, mais en face, il y avait vraiment ce jour-là, il n'y avait vraiment personne. Donc non, je ne pense pas qu'on puisse dire que l'équipe a progressé. Il y a eu aussi énormément de tâtonnements hein, sur les compos, sur le système à adopter. Mais je crois que, bon. Moi, personnellement, je trouve que c'est souhaitable hein, de toute façon que Olivier Dall'Oglio parte. Je pense qu'effectivement, comme l'a dit Dissident, il aurait pu partir avant. Il a beaucoup râlé. On sentait qu'il était en décalage avec la nouvelle direction du club. Et quand je dis direction, c'est dans les deux sens du terme. Hein, c'est la direction que veut donner la nouvelle direction au club également. Et dans le milieu du foot, en fait, on sait que les entraîneurs ne démissionnent pas parce qu'il y a des questions d'argent derrière. Et donc, voilà, on attend de se faire virer. C'était pour moi inéluctable et c'était même souhaitable parce que je pense qu'on est encore sur un système un peu bâtard d'une nouvelle direction avec vraiment un nouveau projet, mais encore beaucoup de personnes qui étaient là de l'ancien régime, on va dire. Et donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on soit 100% en fait dans le nouveau projet. Et peut-être que ça arrivera, comme disait par hasard tout à l'heure, avec le départ de Soukas prochainement. Mais voilà, parce qu'il ne faut pas qu'on puisse se cacher derrière le passé. Il faut que tout le monde soit 100% focus sur la stratégie. Parce que c'était pas le cas déjà avant, hein, et donc Il vaut mieux que ce soit le cas maintenant, quelle qu'elle soit la stratégie. Bon, ben, il y a une stratégie aujourd'hui. Il faut que 100% des personnes présentes soient focus là-dessus, l'aient compris et l'appliquent au jour le jour, au quotidien, tout le temps, pour que ça puisse marcher. Donc, voilà, aujourd'hui, il y aura un nouvel entraîneur. Donc, c'est une pierre de plus sur la totalité de l'édifice que veut monter Kilmer. Eh bien, tant mieux. Moi, je pense que tant mieux. Finalement, le classement, les résultats, c'est presque un prétexte, en fait, un prétexte facile pour s'en séparer. Mais voilà, faisons vraiment du neuf avec du neuf. Voilà.
On comprend bien le propos. Hein. C'est vrai qu'à partir du moment où il y a une nouvelle direction, puis alors, avec un vrai renouveau, hein, parce que c'est une culture différente quand même, la culture nord-américaine, on peut penser qu'il faut que tout le monde voit les choses de la même manière à tous les étages, et il semblerait que ce ne soit pas exactement le cas jusqu'à présent, sans donner raison ou tort à aucune des deux parties. Par hasard, je reviens vers toi sur le, puisque tu as quand même été celui qui a le plus défendu Olivier Dalloglio, même si le propos ici, c'est pas du tout de le descendre, hein, tout le monde l'aura compris, j'espère. Et je voudrais revenir avec toi sur le point de la progression collective de l'effectif depuis notre tour en Ligue 1. Moi, j'ai posé la question avec mon petit avis concernant la réponse, et moi, je n'ai pas vu de progrès. Est-ce que toi, tu en as vu? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que ce n'est pas quelque chose que tu trouves gênant, qui montre les limites de la réussite ou qui montre l'échec d'Olivier Dalloglio sur ces quelques mois en Ligue 1?
Ouais, globalement, je suis un peu sur votre ligne. Si on regarde les résultats, déjà les résultats et également la manière… Il y a eu du mieux, puis des rechutes. Donc, la progression, elle n'est pas, s'il y en a une, elle n'est vraiment pas spectaculaire. Je pense qu'il y en a eu une, quand même, une petite, avec le système qu'il a trouvé à un moment donné au milieu de terrain, qui voulait que, et quoi, donc, quand on n'avait pas le ballon, on descende en défense, et à la place d'Amougou et Mouefek, avoir Mouton et Bouchouari. Qui ont apporté une vraie plus-value. On a eu un moment de mieux avec la victoire contre Strasbourg, la défaite qui aurait pu être un nul chez les vilains, et la victoire, même si elle a été compliquée, contre Montpellier. Ensuite, clairement, moi, si j'avais un reproche à faire à Dalloglio, c'est qu'à un moment donné, il a abdiqué, ça s'est senti, et on a senti que le groupe abdiquait avec lui. Et le match contre Marseille, moi, m'a vraiment profondément marqué, parce que j'ai pas le souvenir à Geoffroy Guichard d'avoir vu ça, en fait. D'avoir vu une équipe qui abdique dès le début, qui se prend un but et qui réagit pas, qui continue à ne pas chercher à porter le danger dans le camp adverse, alors que le stade est plein, qu'on est chez nous. J'ai vraiment eu beaucoup de mal sur ce match. Bon, la progression, donc je suis d'accord avec vous, s'il y en a une, elle était légère. Et y a eu des rechutes. Le dernier match à Toulouse était quand même plutôt positif, mais bon, en même temps, compliqué de se satisfaire de ça. Ensuite, la question de la... Donc, si on fait le constat tous, on est à peu près, à quelques détails près, alignés sur la non-progression de l'équipe. La question qu'on peut aussi se poser derrière, c'est, avec ce groupe, quelle était la marge de progression, quoi. Moi, je suis là-dessus très prudent sur la marge de progression de ce groupe, mais bon, l'avenir va nous le dire, je pense, assez vite. Mais je pense que c'est notre problème, il est quand même, pour moi, avant tout ici, quoi.
C'est une vraie question que tu poses, parce que effectivement, selon l'expression consacrée, on ne fait pas d'un âne un cheval de course, et donc on peut pas demander l'impossible à un entraîneur ni à un formateur, quel que soit le domaine. Hein, on peut pas lui demander l'impossible. Alors, est-ce que ce groupe a un potentiel pour faire bien mieux? C'est une vraie question. Bon. Il n'a pas trop progressé, ce groupe. Il y a eu un peu de mieux. Tu as évoqué le match contre Montpellier. Moi, j'ai été très, très frappé du discours d'Olivier Dalloglio dans les vestiaires à l'issue de la victoire. Un discours très, très positif, de félicitations. Il fallait être fier de cette victoire importante pour le club. Alors, effectivement, elle était importante pour le club, mais on a été nuls. Hein. On ne mérite pas de gagner. Le niveau de performance a été très très faible. C'est un match qu'on, à mon avis, on le joue 10 fois, on le perd 6 ou 7 fois, facilement. Nordin peut nous crucifier d'entrée, Casery nous fait un cadeau, alors que c'est un type de ballon qu'il met au fond habituellement. Donc je pense qu'on a eu énormément de réussite et. Ben voilà, le discours de Dalloglio était, je ne vais pas dire dithyrambique, mais presque, sur la rencontre. Alors moi, je me suis dit, si vraiment il se satisfait de ça, on est mal. Voilà, alors, la qualité du groupe dissident, je reviens vers toi, quelle était, on peut s'interroger, dit par hasard, et moi, je vais même jusqu'à dire, on doit s'interroger, si on veut être honnête pour juger le passage d'Olivier Dalloglio, est-ce que ce groupe peut faire beaucoup mieux que ce qu'il a proposé sous Olivier Dalloglio ? Vraie question.
Vraie question. Le temps aidera forcément ce groupe, parce que les joueurs qui sont arrivés ont forcément eu besoin d'un temps d'acclimatation et ça ira forcément un peu mieux avec le temps. Les jeunes joueurs du centre de formation qu'on a lancé, ils vont forcément progresser un petit peu avec l'accumulation des matchs. Donc forcément, c'était sûr que cette première saison et même cette première moitié de première saison, ce serait un moment difficile. Mais aujourd'hui, effectivement, on n'a pas vu de joueurs crever l'écran ou en tout cas emmener le groupe derrière eux et c'est une source effectivement d'inquiétude sur la suite.
Le seul qu'on a vu crever l'écran, c'est David Tajvili, et qui a sombré aussi vite qu'il était sorti de sa boîte, parce que c'est vrai qu'après son titre de meilleur joueur du mois de je ne sais plus quoi, du mois d'octobre, eh bien après il a vraiment disparu des radars, alors dans une équipe faible. Mais je l'ai trouvé nettement moins bien. Je pense que la performance collective de l'équipe n'explique pas entièrement sa baisse de régime. Je pense que c'est un garçon qui, aujourd'hui, n'a pas encore la possibilité d'être à ce niveau très, très intéressant qu'il a montré fin septembre et en octobre tout le temps. Voilà, il ne peut pas y être tout le temps. Par hasard, tu voulais ajouter un petit mot par rapport à la progression de ce groupe ?
Ouais, je voulais juste dire que au moment où on commençait à aller mieux, on a eu malheureusement à la fois la blessure de Benold qui était arrivée un petit peu avant, mais d'autres blessures de joueurs importants, de joueurs qui s'installaient dans le 11 comme Nadé ou Boakier, et le contexte de ce point de vue n'a pas aidé, je pense, Dalloglio à surfer sur le tout petit début de dynamique qui semblait, début de dynamique qui date d'ailleurs d'octobre et jusqu'à mi-novembre. Quoi.
Et moi, j'ajoute que Ayman Mouefek s'est blessé au moment où Louis Mouton baissait de pied et que ça faisait une solution en moins, puisque Amougou est en méforme totale. Enfin, bon, c'est mon sentiment, vous direz si vous n'êtes pas d'accord. Mais en tous les cas, il y a eu, dans ce que tu dis est tout à fait vrai. Et moi, j'avais parlé de Benold lors de la dernière émission, et quand il s'est blessé, j'ai tout de suite dit, on regardait le match avec ma fille, j'ai tout de suite dit, c'est très mauvais pour nous, parce que, d'ailleurs, par hasard, tu n'étais pas tout à fait d'accord avec moi, mais moi, je trouvais à ce moment-là que c'était un vrai pilier de l'équipe. Et puis, Nadé, évidemment, bon, Nadé, on a vu ce qu'il a apporté à la place d'Abdelhamid. Bon, on n'a pas évoqué le cas d'Abdelhamid et le, et le fait qu'Olivier Dalloglio avait continué à le titulariser contre toute évidence parce qu'il était complètement à côté de ses pompes, bon, ça, à mon avis, c'était une vraie erreur de sa part. La blessure de Nadé, donc, qui était notre meilleur défenseur central, et puis Boakye, effectivement, qui a montré des choses, bon, qui n'est pas exceptionnel, mais qui a montré quelques points intéressants. Alors, en tous les cas, ça faisait une solution de plus. Et j'ajoute donc à ce que tu as dit, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, j'ajoute la baisse de régime de Louis Mouton associée à la blessure d'Aimé de Mouéfec, qui a enlevé une solution de rechange à Dalloglio.
Juste, si je peux me permettre, parce qu'il y a un point sur lequel, en revanche, on n'est pas d'accord, enfin, où on n'a pas la même lecture du truc, c'est sur Abdelhamid. Abdelhamid, on est d'accord que ses deux ou trois premiers matchs, à part le match contre Lille, ont été catastrophiques. Et effectivement, Dalloglio ne l'a pas lâché, ou a fini un peu par le lâcher contraint et forcé, mais il l'a remis, enfin, il l'a lâché tout en le soutenant dans son discours, et il l'a remis vite dans le circuit. Et moi, je considère que sur les deux, trois derniers matchs, il n'y a pas de reproche à lui faire. Donc, il a peut-être
bien fait. Je ne parlais pas de ces matchs-là. Je ne parlais pas des deux, trois derniers matchs. Je parlais de la période où il l'a titularisé, alors que Abdelhamid jouait à un niveau R3. Et moi, je comprends le discours que tu dis, enfin, que tu nous donnes, qui consiste à dire que c'est le rôle d'un coach, c'est de laisser le joueur quand même dans les meilleures conditions pour se refaire la cerise, parce que tu sais que tu as besoin de tout le monde pendant une saison, etc. Et même sur le plan humain, je veux dire, évidemment. Mais il ne fallait pas le faire comme ça. C'est-à-dire qu'il a titularisé Abdelhamid, il a lourdement pénalisé l'équipe au moment, je répète, où Abdelhamid n'était pas au niveau du tout. Alors après, effectivement, là... Les dernières fois, par comparaison avec la nullité de ses performances pendant un moment, effectivement, on peut pas dire qu'il a été mauvais et certainement qu'il n'a pas été le plus mauvais, loin de là, tellement les autres n'étaient pas bons dans des schémas qui lui correspondent mieux, notamment à trois défenseurs centraux, il avait moins besoin de courir. Voilà, hein. Mais c'est pour préciser, quand j'ai dit ça, ce n'est pas au sujet des deux derniers matchs. Ok, on va en rester là pour Olivier Dalloglio. Et on va passer à un sujet qui n'est pas moins épineux, c'est à quoi joue Kilmer, c'est-à-dire quelle est la stratégie général, à court, moyen, long terme, ils en ont un peu parlé, mais à court, moyen terme, de Tannenbaum, de Gazidis, Merivel. Est-ce que tu y comprends quelque chose, toi ? Par exemple, on lit beaucoup, tu vas nous donner ton avis sur la question, on lit beaucoup que sur les réseaux sociaux, sur le forum, machin, certains pensent que, en fait, Kilmer se moque totalement de rester en Ligue 1 ou qu'on redescende en Ligue 2, parce qu'en gros, le projet, c'est sur 5 ans, puis bon, on descend, c'est pas très grave, on remontera. Est-ce que tu penses qu'ils en sont là ? C'est-à-dire, est-ce que tu penses que le court terme les intéresse moyennement ?
Alors, c'est pas que le court terme, je pense que c'est pas que le court terme les intéresse moyennement, je pense surtout que c'est une autre mentalité, et qu'effectivement, les descentes montées aux US ou au Canada, ça n'existe pas et que c'est pas très important. Ce qui est important, c'est le projet à long terme. Donc, je pense qu'il y a déjà une forme de différence culturelle qui se voit là, en fait, de toute façon, qui se voit au jour le jour. Ensuite, la stratégie, elle a été annoncée dès qu'ils sont arrivés. Il n'y a aucune surprise dans le recrutement, notamment. On a parlé dès le départ de jeunes joueurs, de jeunes à développer. Rappelez-vous, enfin, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Rappelez-vous, c'était notre inénarrable Bernard Caiazzo qui avait dit une fois à Sainté, on n'est pas une star, on devient une star. Donc, c'est pas du tout nouveau comme stratégie. On a vu quand même Nous, on sait très bien que c'est casse-gueule, c'est très casse-gueule, et que si on ne se base que sur cette stratégie-là, en Ligue 1, c'est très compliqué de rester, et qu'on va vers des lendemains un petit peu compliqués. Donc ça, j'espère qu'ils ont compris. Par contre, j'espère quand même que la stratégie n'a pas changé depuis le début de saison. C'est-à-dire, j'espère que la stratégie, elle n'a pas duré que 3 mois et qu'ils ont bien une vision à long terme, parce que moi, ça m'intéresse la vision à long terme, même si j'ai pas envie qu'on descende, hein, je suis d'accord. Mais la stratégie à long terme m'intéresse. Donc, j'espère sincèrement qu'ils n'ont pas changé de stratégie et qu'ils savent ce qu'ils font. Par contre, j'espère qu'ils en tirent quand même quelques leçons de ce début de saison et qu'on verra du coup au mercato ce que ça va donner. Mais il ne faut pas s'attendre non plus à ce qu'on recrute de l'expérimenté Ligue 1 sur cette période-là. Il ne faut pas rêver.
Alors, on va voir si les autres sont d'accord avec toi et s'ils ont envie d'un peu plus rêver. C'est vrai que pour rentrer plus précisément dans ce dossier, on a plusieurs questions à se poser. Alors, tu parles du mercato, on va en parler là. Après, on parlera de l'entraîneur, parce que c'est évidemment essentiel de savoir qui va remplacer Olivier Dalloglio, même si on commence à avoir une idée sur la question et on va pouvoir se prononcer dessus. Commençons par le mercato. Alors, dissident, on en discutait avant l'émission, là, on lit que, et Verivel l'a évoqué, que le mercato se ferait peut-être dans le même esprit que le recrutement estival, c'est-à-dire des jeunes à potentiel à développer. Est-ce que ça a du sens de recruter comme ça au mercato hivernal ? Est-ce que c'est de nature à nous permettre de rester en Ligue 1 ? Et la question suivante, c'est est-ce que c'est un objectif pour Kilmer qu'on reste en Ligue 1 ? Enfin, moi, le plan annoncé à long terme, d'accord, je le comprends, mais par contre, là, au jour le jour, je comprends pas. Pour moi, c'est pas clair. Est-ce que toi, tu as le sentiment que c'est un peu plus clair ? Enfin, est-ce que tu arrives à nous éclairer ?
C'est-à-dire que moi, je veux quand même. Je me refuse à penser que Gazidis, avec son CV, ne maîtrise pas le risque éventuel d'une descente pour un club de foot. Et je m'accroche à ça par rapport à tous ceux qui disent qu'une descente, c'est pas bien grave pour Kilmer. Moi, je pense pas. Je pense pas non plus. Enfin, j'ose en tout cas espérer qu'ils ne sont pas surpris par le niveau de la Ligue 1, parce que ça aussi, on le lit un petit peu en disant que Kilmer aurait sous-estimé le niveau de la Ligue 1. Ça, je ne veux pas y croire non plus. La chose dans laquelle je veux croire, c'est que le départ de Dalloglio, l'arrivée, on va en parler, l'arrivée probable d'un coach qui soit plus compatible avec le projet, marque une étape de plus dans l'avancée du projet Kilmer. C'est-à-dire que je pense qu'aujourd'hui, ils ont fait une arrivée un peu sur la pointe des pieds avec une volonté qui était tout à leur honneur de ne pas vouloir bousculer complètement l'organigramme et l'organisation globale du club. J'espère que aujourd'hui en décembre, leur période d'observation est terminée, qu'ils ont tiré des leçons sur tout ce qu'ils ont vu et fait et entendu depuis qu'ils sont là, et que maintenant on va passer la seconde, quoi. Alors, est-ce que ça va passer par un recrutement plus à la papa pour enroutant des habitués de la Ligue 1 ? J'y crois pas forcément, mais peut-être qu'il y aura sur certains arbitrages un panachage qui sera fait un peu plus que leur choix initial de prendre uniquement des prospects. Ça, j'en sais rien, on verra. Mais malgré tout, même si mon côté très anxieux de supporter aimerait que Gazidis intervienne plus souvent et nous rassure et communique plus, Bon, d'un autre côté, je veux pas croire qu'ils font n'importe quoi. Je pense que c'est quand même des gens qui, dont le CV parle pour eux. Ils savent ce qu'ils font. Ils ont une vision, ils ont une temporalité qui n'est peut-être pas la nôtre. Nous, on s'inquiète effectivement match après match et on prend une défaite un peu comme un très très mauvais moment et on a du mal à. On est supporters, hein, donc évidemment, ça nous affecte beaucoup. Je pense que la direction, ils n'ont pas la même temporalité, ils n'ont pas les mêmes émotions, ils passent un petit peu au-dessus et c'est ça qu'on attend d'eux également. Donc je pense qu'en fait que c'est plus calculé et qu'il y a quand même une vision globale qui est tracée, il y a une direction qui est prise, il y a un cap qui a été choisi et que, à mon sens, ils ont quand même anticipé que le début serait difficile pour toutes les raisons que j'ai évoquées. Qu'en tout cas, ils savent ce qu'ils font. J'espère, en tout cas.
C'est vrai, tu as rappelé le CV. Bon, ce ne sont pas des peintres, hein. Ils ont beaucoup d'expérience. Ce sont des Nord-Américains, mais ils connaissent l'Europe quand même. Et globalement, par rapport à ce qu'on a vécu avec la direction depuis, je sais pas, 15 ans, 20 ans, on a tous pensé que c'était plutôt une bonne chose. Alors, j'ai pas trop de doute qu'ils aient une stratégie, une ligne directrice et qu'ils aient de la compétence. Mais voilà, il y a le pain quotidien, le championnat dissident. Tu disais, je n'ose pas imaginer qu'il n'ait pas conscience des conséquences potentielles d'une descente. Alors, c'est vrai que on sait quand on descend, on sait jamais quand on remonte, hein, en fait. Et ça, j'espère que nous en avons conscience dans le foot français en particulier. Et donc, il y a ce mercato hivernal. Par hasard, je reviens vers toi. Est-ce que tu penses qu'il est totalement indispensable qu'on recrute des joueurs aguerris pour assurer le maintien et je dirais peut-être... donner un peu de valeur ajoutée à l'effectif, ou est-ce que tu crois à l'hypothèse d'un recrutement, certes, mais plutôt orienté vers des jeunes à potentiel une nouvelle fois, et est-ce qu'un tel recrutement serait susceptible de nous permettre un maintien en Ligue 1 ?
Ça fait beaucoup de questions. Ça fait beaucoup de questions. En gros, moi, je ne dévie pas de ma posture d'alogliesque initiale, c'est-à-dire que, parce que je suis marqué par... alors, on va me dire que ce n'était pas le même football, c'est à la fois vrai mais, et en même temps totalement faux, que ce n'est pas le même football, mais je suis marqué par 99 et 2004, nos deux dernières remontées, et je suis marqué par la valeur ajoutée immédiate des recrues qu'on avait eues à l'époque, qui avait tiré l'équipe vraiment vers le haut et qu'on n'a pas cette année clairement. Et donc moi, pour répondre à ta question, je pense indispensable...
Le gauche de Stéphane Pedron nous manque.
Pedron, Feindouno, enfin on peut en citer, hein, Piquion, qui était attaquant, qui avait brillé à Rennes avant de venir chez nous, on peut en citer plein. Hein. Wallem, derrière, qui avait bien assuré, bref. Camara, Zolcora, enfin bon, non, je tombe plus, la coupe est pleine. Tout ça pour dire que moi, depuis le début de l'été, j'espère avoir des tauliers, notamment au milieu de terrain, qu'on n'a pas eu. Et donc, c'est le chemin qui, semble-t-il, va être pris. Si on recrute, mais on recrute encore des joueurs à potentiel et des paris, puisque c'est quand même tous des paris. Bah, sauf coup de bol, je vois pas comment la même recette pourrait en gros nous faire des plats plus goûtus. Donc je suis inquiet et je serai inquiet si c'est ça jusqu'au bout. C'est-à-dire que je pense qu'on va se battre pour le maintien jusqu'au bout. Et enfin, je sais bien qu'il y a une enflammade et à laquelle moi j'ai contribué par rapport aux nouveaux dirigeants, notamment aussi lié à deux choses. D'une part, lié au fait qu'on se débarrassait des deux clowns dont on ne voulait plus, et puis lié au fait que le milliardaire, a priori, il a des moyens, puisqu'il est milliardaire, et en plus, il a l'air d'être assez, assez fiable, assez stable. Donc tout ça, on s'est dit, c'est formidable. Avec Gazzidis, qui a 15 ans d'expérience à Arsenal et Milan, on s'est dit, c'est formidable. Je pense qu'ils sont compétents, mais en même temps, ce n'est pas des magiciens. Et là, on est le 20 décembre, en gros. On va avoir, on se dit, la trêve, ça laisse le temps, mais en fait, ça ne laisse pas le temps du tout, hein, parce que 15 jours après Marseille, on joue contre Reims. Donc, avec une semaine de vacances, en gros, le nouvel entraîneur, qui a priori ne va rien, ne va pas savoir parler français, ne connaît aucun de nos joueurs et ne connaît pas le championnat de France, personne n'est magicien, et donc il va avoir une semaine pour à la fois identifier ce que vaut son groupe, identifier les manques et identifier les joueurs qu'il faudrait ajouter à ce groupe. Rationnellement, et on ne pourra pas lui en vouloir, rationnellement, il n'y a pas beaucoup de probabilité que ça marche, quoi. Donc moi, je suis... En fait, je pense, et je pense même que c'était le pari initial des dirigeants, je pense que l'idéal aurait été de garder Daloglio, qui connaît bien le groupe, et de lui donner les moyens au moins, enfin, jusqu'à juin prochain, et ensuite de lui dire merci, de lui donner les moyens de nous maintenir confortablement. Là, ils ont décidé d'accélérer le changement. Je pense que c'est un gros risque, même si évidemment c'est le choix de la cohérence par rapport à leur projet. Je ne sais pas si un entraîneur étranger qui n'a pas beaucoup d'expérience, il va être capable de faire des miracles avec un groupe qui est quand même assez moyen et des joueurs qu'il ne connaît pas du tout. Bon, voilà. Je suis désolé de mon vent de pessimisme que je fais souffler ce soir, mais je me dis rationnellement que la situation va être compliquée, le redressement de la situation va être compliqué. Ou alors le mec est vraiment très fort, quoi.
On a tous de l'inquiétude, hein, donc tu n'as pas à t'excuser. Je crois que les motifs d'espoir ne sont pas absents, mais ne sont pas légion non plus. Alors, tu as évoqué la question de l'entraîneur. On va y venir tout de suite, parce que je l'ai dit, c'est quand même un point central. Avant ça, dissident, une réaction sur le forum.
Oui, alors autant par hasard brille par son pessimisme ce soir, autant Labuse, lui, il s'est pris un bon shot d'optimisme, puisque lui, il n'est pas inquiet pour le maintien, hein, sur le forum. Je salue Labuse au passage. Labuse n'est pas inquiet pour le maintien. Il pense qu'il y aura des recrues au mercato, mais que même en l'état, l'effectif vaut mieux que ce qu'il a montré. Et il pense même qu'on finira dans la première moitié du tableau. Ça peut aller vite.
Bien, que Dieu entende Labuse, on ne demande pas mieux. Verivel.
Oui, c'est pour le chat. Sur le chat YouTube, il y a Cédric qui nous demande en fait si vraiment Gazzidis est assez présent sur Synthé toutes les semaines. Est-ce qu'il est là 2-3 jours? Est-ce qu'il est là plus ou moins? Et voilà, c'est l'interrogation qu'il a en se disant qu'effectivement, on a besoin d'une présence de notre président dans notre club. Voilà.
Oui, alors ça, j'avoue que je ne connais pas l'emploi du temps de Gazzidi. Je ne sais pas s'il est très présent à Saint-Étienne. J'ai de gros doutes sur la question, mais est-ce que l'un d'entre vous en sait plus là-dessus?
Moi, il y a eu pas mal d'échanges sur le sujet ces derniers jours. Ce qu'on peut dire quand même, c'est qu'il n'est pas très présent sur les matchs. Et donc je pense qu'on peut affirmer que s'il n'est pas très présent sur les matchs à Geoffroy, c'est qu'il n'est pas très présent la semaine. Je l'imagine mal venir du mardi au jeudi, match le vendredi soir, et puis il se barre la veille, quoi. Donc moi c'est un de mes sujets aussi un peu d'incompréhension, la communication globalement et le manque d'incarnation du projet par un président qui en plus, connaît pas bien le club et qui a besoin, je trouve, de marquer son territoire. Enfin, je veux dire, la vie du club, elle a lieu le samedi. Enfin, c'est toute la semaine avec les salariés. Et puis, l'environnement du club, tout ce qui fait la vie de ce club, c'est le samedi au stade, c'est-à-dire les partenaires commerciaux, les supporters, les mecs de la mairie, de la métropole, etc. Enfin, moi, ce truc-là, je le trouve un petit peu inquiétant. Et donc, pour répondre à la question, non, il n'est pas très présent au stade, en tout cas. Donc, je pense qu'il n'est pas très présent dans Synthé non plus, quoi. Si on le saurait s'il était présent, parce qu'il aurait été sollicité par les médias, on en entendrait un peu parler. est très discret.
D'accord. Ouais, j'ai la même analyse et c'est assez cohérent avec le discours qui a consisté au début à dire nous avons toute confiance en Olivier Dalloglio, en Jean-François Soucas. Hein, ils ont passé beaucoup la brosse à reluire. Alors évidemment, ils arrivent, ils vont pas dire les mecs qui sont là sont des buses, on va tout changer. Ils peuvent pas dire ça. Mais j'ai l'impression que dans un premier temps, ils ont décidé de se reposer sur les personnes en place et pour l'instant, ça fonctionne pas très bien. On va voir si à ce niveau-là, il y a un changement aussi. Ça peut être un facteur aussi sur lequel ils peuvent jouer. Alors, maintenant qu'on a parlé un petit peu des réactions forum et YouTube, on arrive à l'entraîneur. Alors bon, les papiers dans la presse sont convergents après avoir évoqué le nom de Wilfried Nancy, qui entre parenthèses est né au Havre. Hein, donc ça manque de cohérence tout ça. L'actuel entraîneur de Columbus Crew en MLS, il semblerait que ça soit difficile à faire. Maintenant, c'est Horneland. Horneland par-ci, Horneland par-là, entraîneur démissionnaire de Brannbergen en Norvège, dont le principal fait d'armes est d'avoir fait deuxième du championnat norvégien. Verivel, est-ce que tu es rassuré par ce profil de Eirik, je crois que c'est ça son prénom, Horneland?
Pas du tout. Je ne suis pas du tout rassuré. C'est quelqu'un que je ne connais absolument pas et qui ne connaît absolument pas la Ligue 1, je crois.
Je suis extrêmement étonné que tu ne sois pas rassuré par ce profil que je viens de décrire.
Oui, effectivement, c'est très surprenant. Pas du tout. On va voir, évidemment, il faut lui laisser sa chance, mais... De prime abord, je pense que si on nous avait demandé une liste de 10 ou 20 entraîneurs qu'on aurait voulu venir voir à Saint-Té, je pense qu'il n'aurait pas été dedans. Donc voilà, si c'est lui, bonne chance à lui. Il part quand même avec quelques handicaps. Le fait de ne pas parler français, le fait de ne pas connaître la Ligue 1, et de certainement pas connaître l'effectif. C'est un choix surprenant, mais pourquoi pas. Wilfried Nancy, il avait l'avantage quand même, de connaître la Ligue 1 et de parler français. Voilà.
Effectivement... Pardon ?
Il connaît Wadji quand même.
Ah, il connaît Wadji.
Il connaît Wadji, magnifique. Alors, Wadji qui a élu domicile à l'infirmerie, je suppose qu'on y est bien. C'est rassurant. Alors, ce profil d'entraîneur, c'est vrai que je l'ai présenté parce que, quand j'ai vu que tout convergeait vers lui, je suis un peu tombé de l'arbre. Dissident, t'as ce même sentiment? T'es tombé de l'arbre aussi un petit peu ou t'as pris de la hauteur et tu vas nous expliquer que c'est tout à fait pertinent et qu'il y a plein de motifs d'espoir?
Déjà, j'aime beaucoup ta présentation de l'entraîneur assez cynique. Hein, Zualdo, on dirait quasiment de l'humour anglais. Hein. Bravo. Évidemment, comme Verivel, comme tout le monde, je ne connaissais absolument pas ce monsieur il y a encore 4-5 jours. Donc, il va falloir apprendre à le connaître. Tout ce qu'on peut dire, c'est que typiquement, c'est l'entraîneur qui me paraît tout à fait compatible avec le projet Kilmer. Voilà un entraîneur... plutôt jeune, avec une marge de progression, des idées modernes. Visiblement, pour Kilmer, il a tout pour plaire. J'espère qu'il pourra mieux s'adapter, en tout cas, au matériel que Kilmer va lui fournir en tant que prospect à développer, hein, puisque maintenant, il faut dire le mot prospect. Et c'est tout ce qu'on peut nous souhaiter, quoi. Voilà, mais c'est sûr que spontanément, j'aurais évidemment pas prononcé son nom, puisque je ne connaissais absolument pas il y a encore 4 jours.
Alors, c'est vrai que moi non plus, je ne le connaissais pas. Bon, si c'est bien lui, parce que ce n'est pas encore officiel, mais je ne condamne pas par avance, mais ça ne ressemble pas tellement aux entraîneurs qui arrivent en cours d'année et qui essayent de faire des miracles, qui changent les choses. En tous les cas, ça ne ressemble pas à ceux qu'on a connus et qui ont réussi à inverser des dynamiques très négatives. Par hasard, est-ce que tu as la même réserve sur ce profil, hein? Bon, on répète, hein, ce n'est pas officiel, mais ça semble parti pour. Est-ce que tu as les mêmes réserves que nous ou est-ce que tu vois plus de motifs de satisfaction à l'arrivée de probable, pas certaine, d'Orneland?
Bah, déjà, c'est cohérent parce que au même titre qu'ils nous ont recruté une bonne demi-douzaine de joueurs dont on n'avait jamais entendu parler, Boakier, Benold, Miladinovic, Cornu, etc. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire qu'avant qu'ils arrivent, on ne les connaissait pas. Ils nous ont pris un entraîneur. Enfin, ils vont sans doute nous prendre un entraîneur, pareil, dont on n'a jamais entendu parler. Mais à la limite, pour un entraîneur, moi, ça me gêne un petit peu moins parce que, bon, il entraîne en Norvège. Je ne regarde pas particulièrement le classement du championnat norvégien. Le seul club qui me parle un peu, c'est Rosenborg, parce qu'on les a affrontés deux fois. Son parcours, qui est effectivement assez spectaculaire sur les trois dernières années, je n'en avais jamais entendu parler, mais ça plaide plutôt en sa faveur. Alors, à la fois, c'est cohérent, blague à part sur le fait qu'il est inconnu, c'est cohérent avec le projet globalement, mais j'aurais bien aimé que ça se passe.
Tu peux nous en dire un peu plus sur ce qui plaît dans sa faveur ?
Son parcours, en fait, ça fait une petite dizaine d'années qu'il est entraîneur numéro 1. Il a donc entraîné, l'interview de Ben Karamoko sur le site, il a entraîné, je crois que le club s'appelle Haugesund, qui est un club de D1 norvégienne, avec qui il a fini quatrième. Il a entraîné ce club de 3 ans. Il a du coup été recruté par Rosenborg, qui est le gros club, pas des 2-3 dernières années, mais qui est, au moment où Rosenborg le recrute, il reste sur 4 titres de champion de Norvège. Donc il va à Rosenborg, il finit 3e, donc, ce qui est plutôt pas terrible vu qu'il sortait de 4 titres de champion. Et il se fait virer au début de sa deuxième saison. Et là, il arrive à Brandbergen. À Brandbergen qui est en train de descendre, il arrive à Brandbergen comme adjoint de l'entraîneur numéro 1. Il remplace pendant la saison qui se passe mal, il remplace l'entraîneur numéro 1 et il perd en barrage. J'ai regardé le truc, il perd en barrage au pénalty, ça vous rappellera des souvenirs. Après avoir fait 4-4, un partout, 4-4 après prolongation, et ils perdent, je crois, 8 tirs au but à 7. Enfin, le truc assez terrible. Et donc, ils descendent. Et l'année suivante, ils remontent en étant champions avec 10 ou 15 points d'avance. Puis l'année encore après, donc en 2023, il finit deuxième. Et donc, cette année, il a encore fini deuxième. Et en fait, à 2 journées de la fin, il avait 2 points d'avance. Il devait être champion. Il restait 2 matchs. Et ils ont perdu le match qu'il ne fallait pas perdre. Mais ils ont aussi gagné la Coupe de Norvège l'an dernier. Donc, il a, sur ces 3 dernières années, il a honnêtement une trajectoire qui est très sexy. Il n'y a rien à dire. De ce que j'ai lu sur, j'ai traduit, j'ai fait du Google traduction. De ce que j'ai lu, il a vraiment su construire à la fois un groupe ultra solidaire et très agressif dans le pressing. C'est pour ça qu'il a été comparé à Simeone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid. Image plutôt positive et parcours très positif en Norvège, certes, et uniquement en Norvège. Moi, le souci que j'ai, c'est qu'un type comme ça, il faut le recruter le 1er juin pour lui laisser le temps de construire quelque chose, d'avoir 2 mois de prépa. Là, en gros, il va avoir une semaine de prépa sans rien connaître. Donc, c'est ça qui me paraît très, très casse-gueule. Pour moi, le motif d'inquiétude numéro 1, c'est ça. Si ça se trouve, le type est bon. Mais même en étant bon, tu ne peux pas être magicien, quoi. Enfin, il faut se mettre à sa place. Le type, il va débarquer samedi ou dimanche pour signer, vendredi ou samedi pour signer. il va avoir le match contre Marseille, il va se bouffer 2-3 cassettes vidéo pour... ça ne sera plus des cassettes, mais il va regarder nos précédents matchs. Il aura une semaine d'entraînement avec l'équipe pour faire des choix. Bon courage à lui, quoi. Ça, ça m'inquiète beaucoup. Bon courage à lui, parce que nos premiers matchs, enfin, je ne sais pas si vous voyez le calendrier de janvier, mais on joue Reims, Auxerre et Nantes en janvier. Donc, en dehors du QSG. Donc, on a quand même un mois de janvier qui doit nous permettre de nous sortir de la zone rouge si on ne déconne pas.
Voilà, ça ressemble à un mois, alors décisif, c'est peut-être trop, mais ça ressemble à un mois très important, effectivement, puisqu'on joue des équipes contre lesquelles on est censé pouvoir prendre des points plus facilement que d'autres, que face à d'autres équipes. Donc, oui, c'est pas évident. Alors après, il peut y avoir un cercle vertueux qui se met en place, une dynamique positive, une euphorie. Bon, rêvons. En tous les cas, merci pour ce descriptif assez complet quand même de cet entraîneur Horneland. Ça nous donne une idée de son expérience, de sa trajectoire, comme tu l'as dit. Et puis, ça permet de renvoyer à l'interview de Ben Karamoko sur Poteau Carré. Alors, on va peut-être en rester là pour Kilmer. Je pense qu'on a dit pas mal de choses. Maintenant, il reste l'effectif. On a parlé du mercato hivernal, mais avant le mercato hivernal, il y a des joueurs qui sont là. Ce qui, moi, me semble intéressant de faire, c'est réfléchir un petit peu aux joueurs sur lesquels on pense pouvoir s'appuyer. Ce qui veut dire aussi, en filigrane, peut-être, entre guillemets, en éliminer certains, c'est-à-dire des joueurs sur lesquels peut-être ça serait plus sage de ne plus compter. Et puis, au profil qu'on souhaiterait voir arriver, on l'a un petit peu évoqué, par hasard à parler du milieu de terrain, il pourra certainement détailler un petit peu son idée sur le sujet. Vérivel, on commence avec toi. Dans l'effectif actuel, est-ce que tu vois des éléments qui te semblent susceptibles de former une base solide permettant d'aborder la deuxième partie de saison avec cet objectif de maintien et surtout d'atteindre cet objectif?
Ouais, alors c'est compliqué, hein, c'est compliqué comme question.
Toi qui aimes ce poste, Larsonneur, je lis pas mal de trucs qui remettent en cause la qualité de Larsonneur qui a quand même été plutôt loué pendant longtemps à Saint-Té. Est-ce que pour toi Larsonneur c'est un gardien qui fait partie des forces de l'équipe sur lesquelles on peut s'appuyer pour se maintenir? Voilà. Comme ça, je te pose une question plus précise.
Oui, moi, je pense que oui. De toute façon, je pense que le poste de gardien, ce n'est pas là où on a un problème. Évidemment, il pourrait être meilleur. Il pourrait faire 1m92.
Certains le disent. Hein,
oui, bien sûr.
Non, un arrêt tous les 8 tirs, etc. Bon.
Ouais. Non, mais bien sûr qu'on pourrait avoir un meilleur gardien, ça, c'est sûr. Mais je ne pense pas que ce soit là le problème de l'équipe. Je pense qu'il faut d'abord régler le problème du milieu de terrain pour moi. Il y a quelques joueurs quand même qui, en ce début, enfin si on regarde les matchs de ce début de saison, qui est vraiment stable en fait dans cette équipe, enfin à le niveau à un niveau stabilisé, on va dire.
Vérivel, ouais. Niveau stable, mais suffisant, parce que…
Oui, niveau suffisant. Ah,
on est d'accord.
Oui. Moi, je dirais Ekwa, même si, évidemment, c'est en dents de scie, mais ce sera toujours en dents de scie, parce que ce sont des jeunes joueurs qui viennent juste d'arriver, il ne faut pas rêver, sur leur première saison, ils ne vont pas… c'est forcément le niveau qui va varier un petit peu de match en match. Donc, moi, je dirais Ekwa. Je dirais Léo Pétro, sur qui on peut compter aussi. Un peu plus haut sur le terrain, David Tachvili, évidemment. On a vu qu'il était capable quand même de faire des très grands matchs. Et donc, moi, je le mettrais quand même sur les joueurs sur lesquels on peut compter pour l'avenir. Après, il y a des gros doutes sur certains joueurs, notamment au milieu de terrain. Moi, j'ai des gros doutes quand même sur la capacité de Louis Mouton à tenir toute la saison à un niveau suffisant. Mais aussi, c'est pareil pour Ayman Mouefek. En défense, si on a Yanadé, sur lequel on peut compter, malheureusement, il est blessé. Franchement, je compterais aussi sur Appia parce que je pense que ce joueur il est très décrié et pourtant, je pense que déjà on a pas beaucoup mieux à ce poste et en plus il a quand même sur certains matchs il a quand même été à haut niveau et pour moi c'est l'un des joueurs sur lesquels on devrait s'appuyer et peut-être même plus s'appuyer que ce qu'on le fait actuellement. Sorti de là, évidemment, Stassin devant, on ne peut pas dire pour l'instant qu'il est fait le taf, mais enfin, c'est quand même très compliqué dans ce système, dans cette équipe.
C'est un Belge, donc il a l'immunité. On ne critique pas les Belges dans cette émission. Merci.
Ok, mais je ne le critique pas. Justement, ce que je dis, c'est que dans ce système et cette équipe, c'est très compliqué pour lui de briller et d'avoir des ballons, tout simplement. Donc voilà, mais voilà, moi c'est les joueurs auxquels je pense pour la suite. Je pense quand même qu'on a besoin au moins d'un joueur par ligne sur ce mercato et voire plus.
Ouais, on va en parler. Alors, je voudrais rebondir sur différentes choses que tu as dites avant de donner la parole à Dissident. Moi, je pense aussi que le poste de gardien, c'est pas une priorité parce que l'Arseneur est un bon gardien, même si c'est pas le meilleur gardien du monde. Et parce que je pense que Brice Maubleu est une très bonne doublure. Je voulais rebondir aussi sur ce que tu as dit sur Denis Appia. Moi, je pense que Denis Appia, c'est un joueur sur lequel on peut s'appuyer. J'ai lu des critiques sur lui aussi et je dois dire, je ne les comprends pas bien. C'est l'un des rares qui, sur le plan athlétique, est capable de répondre présent dans les rencontres, dans les duels, ne baisse pas de pied physiquement au cours de la rencontre. Qui joue son rôle de défenseur latéral moderne, c'est-à-dire qui régulièrement prend son couloir. C'est pas le meilleur centre du monde, mais je pense qu'on a peut-être la pire équipe au niveau de la qualité de centre de toute l'Europe, pas seulement de la France. Parce que dès qu'on crée des décalages derrière, il y a des centres qui sont ratés la plupart du temps. Donc voilà, je suis d'accord avec ça. Alors, ceci étant dit, tu as cité quelques noms. Nadé, c'est certainement pas par hasard qui va nous dire le contraire. Léo Pétro, stable, c'est vrai, mais est-ce qu'il est stable à un niveau suffisant dissident? On va parler d'autres joueurs pour ensuite sortir les noms qui font l'unanimité dans l'émission. Commençons par Léo Pétro, qu'on apprécie tous là. On a pu compter sur lui dans cette première partie de saison. Il est quasiment jamais passé au travers. Mais est-ce qu'il est stable à un niveau suffisant pour affronter cette deuxième partie de saison ou est-ce que tu souhaiterais un autre joueur à sa place, sachant qu'on a Pierre Cornu, qui a été blessé, qui, quand il est revenu, a joué offensif. Enfin bon, voilà, tout ça, c'est difficile à analyser entièrement, mais il faut bien, un moment ou un autre, se prononcer.
Ouais, déjà, je suis agréablement surpris de vous entendre parler en bien de Denis Appia, parce que moi, je pensais que j'allais être à peu près le seul en France à être super satisfait de ses prestations. Comme tu l'as très bien dit, il tient son couloir et il arrive même à se projeter. Et justement, pour faire le pendant avec Léo Petro, même si on l'apprécie beaucoup et on est tous d'accord pour ça, moi j'ai trouvé un peu limite quand même sur cette fin de première moitié de saison. Il a concédé beaucoup de pénaltys, il défend à l'arrache, comme on connaît, mais on sent que c'est dur pour lui. Et si on partait de l'idée d'une recrue par ligne, je me demande si du côté du poste d'arrière gauche, il ne faudrait pas réfléchir, parce que ni Petro ni Cornu m'ont vraiment convaincu dans le sens du défenseur latéral moderne de Ligue 1, c'est-à-dire qu'il soit à la fois solide défensivement et qui arrive à apporter quelque chose offensivement. J'ai pas vraiment vu ça très souvent, ni chez Petro ni chez Cornu. Après, pour le reste de la ligne défensive, si on part sur une base avec Denis Sapia à droite et une charnière Batoubensi Kanadé, bon, c'est pas merveilleux, mais je pense que c'est plutôt solide. Et donc, s'il fallait faire une recrue en défense, moi, je me poserais la question du côté de Léo Petro.
Oui, et puis on va ajouter que dans l'axe, il y aura le retour d'Anthony Briançon, il y a Abdelhamid. Bon, ça fait beaucoup de monde, alors la quantité ne fait pas la qualité, mais il faut cibler des priorités. Évidemment, on ne va pas recruter 11 joueurs. Alors, on va terminer avec la défense, là, en donnant la parole à Parazar, parce que Léo Petro est remis en cause, donc je pense que nous allons subir un véritable ouragan venu de Lyon.
Ouais, déjà, la fin de ta phrase m'agace beaucoup, mais je ne commenterai pas plus. En l'occurrence, je suis d'accord avec vous sur Appia, moi. Je suis content qu'on soit unanime, parce que en dehors du fait que je le trouve éminemment sympathique et intelligent quand il s'exprime,
en conférence de presse notamment. C'est tout à fait, c'est tout à fait frappant, effectivement.
Je trouve qu'il a un bon niveau, que contrairement à Masson, il ne nous gratifie pas d'une boulette par match. Parce que c'est quand même un peu le défaut de Masson.
C'est vrai.
Et qu'on a moins l'impression, enfin, on n'a pas l'impression, contrairement à Masson, que possiblement il va se prendre un rouge parce qu'il va péter un câble. Et par ailleurs, je trouve qu'il, contrairement à Petro, qu'il a une certaine pointe de vitesse. Donc, Petro, moi, je le défends parce que globalement, ça reste acceptable. C'est vrai que sur les 2-3 derniers matchs, j'ai trouvé parfois sa lenteur. On sent que quand il est latéral gauche, il se contraint à défendre assez loin de son ailier, enfin de son adversaire, parce que sinon il se fait prendre de vitesse et il ne le reverra plus. C'est un peu sa limite. En dehors du fait aussi qu'offensivement, je le trouve un peu moins bon qu'Appia. Mais globalement, ça me paraît présentable et je suis assez pour ne rien changer derrière, moi, en fait. Pour moi, si on doit se renforcer, c'est plutôt dans les autres lignes. Et si on doit se renforcer, il faut aussi qu'on arrive à dégraisser parce qu'on a beaucoup de monde, quand même, en particulier au milieu. Donc ça doit poser quand même, à un moment donné, des problèmes d'ambiance et...
C'est vrai que derrière, si on veut recruter, on a deux joueurs qui peuvent jouer au poste de latéral gauche avec Cornu et Petro, mais on en a même un troisième avec Masson qui a joué régulièrement à gauche. À droite, on a Appia et Masson, du coup, qui peut jouer des deux côtés. Des défenseurs centraux, on en a quatre. Et donc, si on doit recruter en défense, c'est difficile d'imaginer de le faire sans dégraisser, effectivement. Alors, est-ce que c'est la priorité de recruter en défense, sachant qu'on a une défense ultra perméable? Ça serait un peu étonnant de dire non. Mais on sait très bien que les buts, on ne les prend pas seulement à cause des défenseurs. Donc, voilà, évidemment, on ne va pas cracher sur l'arrivée de Virgil van Dijk en charnière centrale, hein, mais a priori, il y a peu de chances que ça se produise. Donc, si c'est pour recruter, pour faire du nombre, le nombre, on l'a déjà. Donc, c'est soit quelqu'un qui est sensiblement au-dessus des joueurs actuels de la défense. Et je serais assez d'accord avec Dissident pour dire que si on devait en prendre un, ça serait plutôt côté gauche, parce que si Pierre Cornu avait été, j'ai trouvé assez intéressant au tout début avant sa blessure, je l'ai trouvé décevant depuis, mais prendre pour prendre, aucun intérêt. Alors on arrive maintenant au milieu de terrain. Par hasard, je te redonne la parole parce que t'en as parlé à plusieurs reprises dans l'émission de ce manque de maturité peut-être au milieu de terrain. Alors, à ce stade, vois-tu dans l'effectif comme un titulaire en puissance quelqu'un qui peut nous tirer vers le haut, et quel type de profil tu aimerais voir venir renforcer l'effectif?
Juste au préalable, sur le forum, il y a une réaction de Stéphanois qui lui aussi considère que Appia a une valeur ajoutée par rapport à Petro sur le plan offensif, comme on l'a vu contre Toulouse.
Je suis d'accord avec ça.
Au milieu de terrain, moi, alors pour le coup, j'ai un bémol par rapport à ce qu'a dit Verivel. Moi, je ne suis pas très conquis par Ekwa. Que je trouve assez propre techniquement, mais léger physiquement. Et moi, je trouve qu'on a vraiment besoin d'un joueur d'impact, d'un Seko Fofana, quoi, même si, évidemment, il est en dehors de nos moyens a priori, mais c'est vraiment de ça, je pense, dont on a besoin, et depuis même l'an dernier, hein, d'ailleurs. On l'avait pas non plus l'an dernier, et c'était ennuyeux parce qu'on faisait pas toujours la loi au milieu de terrain, mais alors cette année c'est encore pire.
Tu penses qu'on peut faire revenir Guérin Endo?
Je l'avais oublié. C'est vrai que ça a été 4 millions d'euros on avait payé, je pense, pour Guérin Endo. Joli flop.
Incroyable.
Mais c'est un des rares joueurs qui a pleuré après avoir marqué un but, je sais pas si vous vous souvenez, contre Bordeaux, je crois, en Coupe de la Ligue.
Oui, il était dans une période très, très difficile et ça l'avait beaucoup ému de réussir à marquer, oui.
Non, moi, alors il y a un joueur dont Verivel n'a pas parlé, mais qui, pour moi, depuis un mois et demi, nous montre qu'il faut compter sur lui, c'est Bouchouari, quand même. Parce que, alors certes, pas trop, et encore de mieux en mieux, mais pas trop dans le style que j'appelle de mes voeux, c'est-à-dire le Seko Fofana de Saint-Té, c'est pas ça, mais en revanche, il se met à défendre ce que Dalloglio lui avait demandé, il s'est mis à le faire, et à le faire plutôt pas si mal, alors qu'il le faisait vraiment pas du tout avant, et ça avait le don de m'énerver, et puis il garde cette capacité de conserver le ballon, de se retourner assez vite, de jouer du coup verticalement, de remonter assez vite le ballon. Évidemment, il n'est pas encore décisif, il l'a quand même été contre Montpellier, c'était quand même appréciable. Il n'est pas suffisamment décisif, mais...
Mon avis, il ne le sera jamais, hein. Il a une frappe de mouche,
ça n'a pas l'air de sa qualité première. Mais sur les 15, je crois qu'il y a eu 15 matchs, sur les 15 matchs depuis le début de saison, si on doit citer des satisfactions, ça fait partie des 2-3 satisfactions quand même au milieu de terrain. Donc, moi, je pense qu'il nous faut une recrue. S'il y avait un seul poste, une seule recrue pour moi, c'est un taulier au milieu. Pour moi, c'est une obsession, hein, de ce fameux taulier un peu physique où je ne sais pas si N'Golo Kanté en a marre
de la chaleur. Taulier, pour toi, c'est 6 devant la défense, quoi.
Ouais, c'est plutôt 6, ouais. Je voudrais Matuidi, chez nous, il jouait 6, hein, il jouait pas aussi avancé qu'au PSG. Un Zokora, un Matuidi, je fantasme sur ces joueurs-là qu'on avait, qu'on n'a plus, quoi.
Zokora, c'était extraordinaire.
Donc voilà.
Ça veut dire, par hasard, si je te suis bien, que tu envisages, imaginons qu'il y ait un 6 de très bon niveau qui arrive, tu envisages les autres postes, on a beaucoup joué en 4-3-3 par exemple, tu envisages de pouvoir tourner avec l'effectif actuel sur les autres postes, en l'occurrence les joueurs qui ont joué sur ces autres postes de milieu relayeur jusqu'à présent, c'est Bouchouari, Alors les autres se prononceront dessus, moi je suis tout à fait d'accord avec toi, hein. Il a passé un cap et très souvent c'est le cas pour les joueurs offensifs qui au départ se croient tellement bons qu'ils prétendent ne pas avoir besoin de défendre, et bien quand ils se mettent à défendre, ils sont meilleurs offensivement et c'est exactement ce qui lui arrive. Mathis Amougou, Eymen Mouefek et Louis Mouton. Parce que c'est vrai que Fomba et Tardieu, alors Tardieu il n'est pas relayeur, Fomba l'est, mais bon, Fomba on l'a très peu vu, même si pourquoi pas, le nouvel entraîneur peut le remettre dans la rotation. Il n'a jamais fait son trou parce qu'il n'a jamais pris sa chance il l'a eu, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc on est d'accord que tu vois dans l'effectif actuel la possibilité avec un taulier de pouvoir finir la saison de cette manière.
Ouais, parce que dans l'hypothèse d'un taulier qui jouera en 6, Ekwa peut aussi reprendre un rôle de relayeur qui s'est assumé. D'après ce que j'ai vu sur ses perfs à Sunderland, sur ses matchs à Sunderland, il était beaucoup plus avancé qu'il ne l'a été chez nous. Il a d'ailleurs marqué des buts sur des frappes à 20 mètres. Donc il y aurait Ekwa en plus dans la rotation si on jouait en 4-3-3 avec un 6. Et puis, je ne désespère pas, moi, du retour en forme de Mouefek. Et je pense que Mouton, il a un QI foot supérieur à la moyenne et qu'il apprend. Et d'ailleurs, c'est ce que Dalloglio disait. Hein, je suis désolé, mais moi, j'aimais bien les analyses de Dalloglio en conférence de presse parce que je le trouvais très transparent, très sincère. Et en gros, il expliquait que Mouton avait compris ce qu'on lui demandait, qu'il avait bien progressé. Et je pense qu'il va continuer. Ce n'est pas un joueur très spectaculaire a priori, mais c'est un joueur qui va en plus nous marquer des buts sur les frappes. Pour l'instant, il ne l'a pas fait, mais il le fera. Moi, je crois beaucoup, et depuis ses 15 ans, vous rappelez-vous, je crois beaucoup en Louis Mouton.
Oui, moi aussi, on a déjà eu l'occasion d'en parler dans l'émission, et je pense qu'il a subi une baisse physique sur les deux derniers matchs, parce que c'est son principal défaut actuellement, c'est qu'il a physiquement des limites, il finit jamais un match, et je crois qu'il il aurait eu besoin de souffler. Si Eymen n'avait pas été blessé, il aurait certainement pu souffler, et si Mathis Amougou n'avait pas été un peu à côté de ses pompes lors des dernières rencontres, il aurait, mais bon, il est jeune, hein, Mathis, hein, donc il aurait pu souffler lui. Donc voilà, pour toi, c'est une recrue en 6 devant la défense avant tout. Dissident, un petit mot peut-être sur le milieu de terrain, la confirmation ou pas du fait qu'on peut s'appuyer sur Boukouari, la nécessité d'avoir un joueur d'expérience, de recruter un joueur d'expérience au milieu, et puis le turnover avec les autres, on a pléthore de milieu, donc ça laisserait pour le dernier poste ou pour les deux derniers postes beaucoup de choix à l'entraîneur.
Oui, je suis assez séduit par la proposition de Parazar. Moi, j'imaginais effectivement un joueur qui viendrait parfaitement en complément du duo Ekwa-Bouchouari, que moi je trouve que c'est sur ces deux joueurs que je pourrais compter le plus au milieu de terrain sur la première partie de saison. Et donc j'imaginais effectivement un joueur de complément à ces deux-là, peut-être effectivement un peu plus, un petit peu plus juste que techniquement que Louis Mouton par exemple. Mais c'est vrai que la proposition de Parazar de faire monter un peu Ekwa et de recruter un taulier en 6, c'est assez séduisant. Et je crois effectivement que si on part avec un bon 6, un taulier, ben au contraire tous nos jeunes vont être rassurés, vont progresser beaucoup plus vite. Les Moutons, les Mouefek, les Amougou, je pense qu'on pourrait voir de plus belles choses si derrière il y a une sécurité plus importante que ce qu'on a actuellement. Donc je suis dans la mouvance par hasard sur ce coup-là à 100%.
Bon, c'est certain qu'un joueur qui fait la loi devant sa défense, c'est quelque chose de formidable pour une équipe. Et bon, on se souvient de Didier Zokora qui avait à peu près toutes les qualités d'un footballeur. Bon, c'est vrai qu'un joueur de cette trempe nous ferait énormément de bien. Dissident, on reste un tout petit peu avec toi pour parler des couloirs offensifs. Donc, on a Benold, on a Boakye, on a Cafaro, on a Davitashvili. Est-il nécessaire d'aller chercher un joueur supplémentaire de ce côté-là, ou est-ce que tu préférerais faire porter l'effort sur le poste d'avant-centre, hein, on va y venir, ou sur les deux, pourquoi pas?
Oui, si je reste sur ma logique de un joueur par ligne, moi, sur le poste plutôt des attaquants, je garderai les deux avant-centres qu'on a aujourd'hui. C'est, encore une fois, ce n'est pas faramineux, mais c'est plutôt pas mal. Et je pense qu'encore une fois, on n'a pas vu l'ensemble des capacités de Stassin. Et Sissoko, malgré toutes ses limites, il peut apporter, il l'a déjà fait. En fait, ce que j'aimerais bien voir, c'est un joueur qui puisse alimenter nos avant-centres en ballon. Pour l'instant, ils ont vraiment été sevrés de ballon. C'était assez désolant de voir le faible nombre de ballons jouables qu'ils ont à chaque match. Donc, si je pars de ce principe-là, je dirais que Davitashvili, malgré ses performances en dents de scie, ça reste quand même un élément sur lequel il faut s'appuyer. Même si j'espère que le nouvel entraîneur mettra peut-être un peu plus de concurrence à son poste, parce que Davitashvili, c'est un des joueurs que Dalloglio ne faisait jamais sortir. Sauf tout à la fin, mais effectivement, en complément de Davitashvili, j'essaierai bien de trouver quelqu'un qui puisse avoir de l'impact sur les côtés, avoir une bonne qualité de centre, pouvoir revenir sur son pied pour mettre quelques frappes. Il faudra trouver ce profil là en attendant éventuellement un retour de Benold, mais le pauvre, il en a encore pour pas mal de temps. Boakye, pour l'instant, je vois plus comme un joueur de complément à faire entrer en fin de match. Et Cafaro m'a un peu déçu quand même sur ce début de saison. J'ai pas trouvé vraiment qu'il avait un impact important sur les matchs. Donc encore une fois, peut-être en sortie de banc à la fin sur quelques fins de match, ça peut être intéressant. Mais il nous faudrait, à mon sens, trouver un vrai titulaire du poste sur le côté.
Ou en gardien de
but.
Je suis d'accord. Cafaro. Il peut aller dans la cage.
Je suis d'accord sur Boakye qui est un joueur de complément. Je pense que ouais, il peut faire du bien en fin de match. Cafaro, trouve que l'analyse est compliquée parce que c'est le meilleur centreur de l'équipe. Je pense qu'il n'y a pas photo. Et il est capable de mettre des centres au cordeau sans même avoir débordé. C'est le seul qui est capable de faire ça pour un avant-centre qui n'a plus qu'à la pousser au fond, au deuxième poteau, ou qui coupe au premier, comme le faisait Nolan Roux avec Robert Berić. Tiens. Ils avaient trouvé une connexion, les deux. Là. Cafaro, comme a fait... Denis Sapia à Toulouse, voilà. Je dis Cafaro, c'est le seul qui est capable de le faire. Bon, Denis Sapia l'a fait, mais c'était la première fois, alors que Cafaro a été capable de le faire à plusieurs reprises. Donc, c'est un peu illisible. Et puis après, il est irrégulier, il défend pas très bien, il fait des fautes débiles, il se prend des cartons jaunes débiles. Enfin, on se demande même comment c'est possible en tant que professionnel qu'il continue à faire des sottises de ce type. Donc, maintenant, Verivel, je viens auprès de toi pour savoir si, comme dissident, tu considères que le poste d'avant-centre n'est pas une priorité, c'est-à-dire qu'on peut se débrouiller avec leurs qualités, leurs défauts, leurs limites. Hein, évidemment, c'est pas un duo Van Basten. Mossala, hein, mais avec Sissoko et Stassin, et qu'il est plutôt plus important de trouver un joueur de rupture pour jouer sur le côté. Est-ce que tu fais la même analyse que Dissident, ou est-ce que toi t'aimerais bien, ou est-ce que tu peux penser qu'il est nécessaire de recruter deux joueurs, un de couloir et un dans l'axe. Enfin, voilà, quelle est ton analyse sur l'aspect offensif de notre effectif?
Alors, moi, je trouve qu'il y a beaucoup de limites quand même. qu'ils ont leurs limites, oui. Alors, ils en ont beaucoup, quand même, des limites. Alors, comme je disais tout à l'heure, on n'a pas vu, effectivement, Stassin, on n'a pas encore vu tout son potentiel, je pense. Hein. Sur les matchs, il ne reçoit pas beaucoup de ballons dans des bonnes conditions. Donc, c'est très compliqué. On a vu quand même qu'il avait le sens du placement, qu'il savait quand même se créer des occasions. Bon, pour l'instant, il a réussi à en mettre qu'une seule au fond, mais on peut penser, vu son jeune âge, que ça va arriver. Pour Sissoko, on le connaît très bien. On sait que et il a montré quand même des choses assez intéressantes. Mais d'un coup, on sait qu'il est capable de prendre le ballon et puis de ne rien en faire et surtout de se faire rattraper. Cette occasion là à Lyon où on peut lui en vouloir, je pense, hein, de ne pas l'avoir mis au fond. Donc, y a quand même beaucoup de limites, mais je ne pense pas de toute façon qu'on va aller chercher un avant-centre sur ce mercato. On sait très bien combien ça coûte un bon avant-centre. Et effectivement, ce n'est peut-être pas la priorité des priorités, plutôt quelqu'un qui pourrait donner des ballons pour voir vraiment comment il pourrait se débrouiller avec des bons ballons, dans la surface. Donc, je suis un peu sur la ligne de dissident, même si je trouve que quand même on est très, très, très limité et qu'il va falloir à un moment ou à un autre penser à changer, mais ce sera plutôt sur la saison prochaine.
Ce qui est sûr, je pense qu'on va être d'accord sur ce sujet, c'est que ni Lucas Stassin ni Sissoko ne donnent le sentiment de pouvoir être décisifs sur un geste d'avant-centre où d'un seul coup il y a un éclair et alors que la défense était en place, et ben ils font une différence individuelle, ils mettent au fond une reprise de volée. Un exploit un peu individuel, que ce soit par le dribble ou par la frappe. On n'a pas l'impression qu'ils sont capables de ça. Alors, évidemment, ce type de joueur, comme tu l'as dit, Verivel, ça coûte des sous. Mais plus gênant, je trouve, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont assez loin de ça. Parce qu'il y a des joueurs qui le font à chaque match. Bon, ça, ce n'est pas la peine. Hein, ça joue la Ligue des Champions et ça gagne la Ligue des Champions. Mais il y a des joueurs qui le font de temps en temps quand même. Ben, eux, on n'a pas le sentiment que ça soit dans leur corde, donc ça veut dire que c'est le collectif qui doit venir les mettre dans de bonnes conditions. Et par conséquent, par hasard, est-ce qu'on n'arrive pas au constat que si on ne recrute pas dans l'axe, sur le poste de Sissoko et Stassin, Dissident a raison, il faudrait, recruter un joueur de rupture sur le côté qui soit d'un niveau supérieur peut-être à ce qu'on propose actuellement.
Ouais, je dirais oui, parce que j'ai un argument supplémentaire moi, par rapport à Sissoko et Stassin pour ne pas rajouter un concurrent supplémentaire, c'est qu'on n'a pas recruté un mec à 10 millions, un mec de 19 ans à 10 millions pour le barrer avec un type qui serait vraiment plus fort, quoi. Ça me paraît. Ça me paraîtrait pas très cohérent comme stratégie de recrutement. Et puis, comme vous, Sissoko, dans un style à la Brandao, je trouve qu'il a une vraie vertu, c'est qu'il bouscule physiquement les défenseurs, il les emmerde. On l'a vu contre Montpellier, l'occasion qui se crée au bout de 5 minutes, ou l'occasion qu'il a à Monaco. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à Monaco, à un moment donné, il met une belle frappe au ras du poteau. Après avoir gagné un duel avec Kerrer, où il est à la limite de la faute, mais il se débarrasse de Kerrer. Il n'y a que lui pour faire des choses comme ça. C'est quand même une de ses forces, cette espèce d'impact physique qui fait que parfois, il se débarrasse de défenseurs épaule contre épaule. Bon, donc...
Il y a des limites techniques hein, quand même. Hein. Sur le plan du contrôle et de la passe, il y a quand même beaucoup de déchets.
Alors, moins bon de la tête que Brandao, mais c'est pour ça que je le compare un peu à Brandao. Donc bon, bref, d'accord pour dire que c'est sans doute sur le côté, ou en tout cas, pas forcément sur le côté, mais un pourvoyeur de ballon, parce que les pauvres, alors effectivement, on n'avait pas beaucoup de possessions, mais les pauvres, ils sont quand même très très peu servis. J'essaie de me souvenir de... à part à Monaco et puis je crois contre Auxerre, je n'ai pas de souvenir de centre pour Sissoko où en fait il se retrouve à 10-12 mètres et il a une reprise qui est une vraie occasion de but. J'en ai pas trop le souvenir d'occasion comme ça après 15 journées, ni pour Stassin, ni pour lui. C'est quand même un peu emmerdant, quoi. Il y en a peut-être deux ou trois pour chacun des deux. Mais grand max, quoi, en 15 journées, c'est bon, compliqué. Donc un pourvoyeur, sachant que nos joueurs de côté sont quand même pas tous des vrais joueurs de côté, quoi. Donc quand on dit Boakier, il est joueur de côté sans vraiment l'être. Benold, il est blessé. David Ajvili, pareil, on peut s'interroger sur son vrai statut. Il y a un autre truc qu'on n'a pas dit aussi, c'est Wadji, qui était notre seul attaquant de pointe rapide. Qui est notre seul attaquant de pointe rapide, mais bon, l'imparfait, c'est un lapsus révélateur, parce que voilà.
Tu as raison, il faut en parler. J'aurais dû évoquer son cas, mais je ne l'ai pas fait exprès, hein, mais dans ma tête, en fait, il ne rentre pas dans l'effectif parce que j'ai l'impression qu'il sera blessé jusqu'à la fin des temps, quoi. Il rejoue 10 minutes et c'est reparti pour 2 mois. Quoi.
Surtout que maintenant, il se blessait à l'entraînement en plus. L'an dernier, il se blessait en match quand il revenait. Là, il ne s'est pas blessé sur le match, je ne sais plus contre qui il a joué, contre Marseille ou le match d'avant, il ne s'est pas blessé. Mais il se blesse à l'entraînement. En plus, cette fois-ci, c'était une autre blessure, visiblement, puisque c'est au genou. Bon, c'est assez terrifiant, mais c'était pour le coup un joueur rapide qui était capable de faire des différences en profondeur, et on n'en a plus non plus de joueurs comme ça. Donc, soit un joueur en profondeur, enfin de profondeur, soit un pourvoyeur de ballon. Effectivement, ça pourrait être ça, nos deux recrues, quoi. Un taulier et un attaquant qui serait soit de profondeur. Ça va dépendre du style que veut imprimer le nouvel entraîneur à l'équipe aussi. Mais voilà.
Oui, c'est certain que ça va jouer beaucoup, hein, puisqu'on a quand même le droit d'espérer qu'il y ait de la cohérence entre les desiderata du nouvel entraîneur et les arrivées. Pour finir sur David Ajvili, tu as marqué un petit temps d'arrêt là sur son positionnement. Moi, je pense que c'est un joueur de côté, hein, quand même. Même si il peut repiquer dans l'axe à partir de son côté ou quoi, je pense qu'il est plus performant sur un côté. Peut-être que l'avenir me donnera tort, mais c'est quand je vois son jeu et quand je vois ce qu'il a proposé la seule fois où il n'a pas été aligné sur le côté. Je reste quand même sur cette idée et sur le fait que en potentiel il est au-dessus des autres probablement, et s'il gagne de la régularité ça sera compliqué de ne pas l'aligner comme titulaire. Voilà, nous sommes arrivés au terme de l'émission. On a fait plus long que prévu, mais évidemment il se passe tellement de choses dans l'actualité du club. On est dans une situation tellement difficile qu'il y a beaucoup de points à évoquer. Voilà, on vous remercie d'avoir écouté cette émission, que ce soit en direct ou en podcast sur YouTube. On vous donne rendez-vous en 2025 avec un mois de janvier, on l'a évoqué, très important, chargé. Et on espère avec un nouvel élan pour l'ASS. Merci à tous et allez les Verts.
Allez les Verts.